adaptations, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Au travers le Québec, au moment où je prononce ces mots, s'organise un mouvement collectif nommé « Nous ne serons pas sages ». Ce mouvement exige la dissolution du comité de sages qui a été mis sur pied par la coalition Avenir Québec en décembre dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à ce moment-là, il y avait une mobilisation contre les toilettes mixtes dans les écoles et contre l'éducation sexuelle inclusive. Des discours transformes ont largement été médiatisés. C'est donc pour se poser sur ces questions que la CAQ a nominé un comité dit de sages composé de 3 personnes cisgenres. Aucun membre de la communauté concernée, ni de scientifique à même d'apporter un éclairage nuancé n'ont été invités à la table de discussion. Pour discuter de la place de la science dans ce contexte sociopolitique tendu, on reçoit aujourd'hui Julie-Christine Coton, qui est membre chercheuse régulière du GRIZE et professeure adjointe au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Les travaux de Julie-Christine se penchent sur le bien-être des populations minorisées, entre autres des jeunes trans et non-binaires. Bonjour Julie-Christine, heureuse d'avoir la chance là, de parler de ce sujet-là avec toi aujourd'hui.
Bonjour Lauriane, merci de me recevoir.
Donc Julie-Christine, tu es directrice scientifique de Labo Inclusif, un laboratoire de recherche qui mène des travaux pour et avec la communauté LGBTQ+. Comment tes intérêts de recherche se sont penchés vers ce sujet-là?
Bien, ce qui est intéressant à savoir, c'est que moi, ma thèse doctorale portait sur l'adaptation culturelle en milieu autochtone. Donc, moi, je m'intéressais à comment on peut adapter les pratiques de prévention des dépendances dans les écoles autochtones. Et pourquoi je m'intéresse à ça aujourd'hui, c'est grâce à un jeune que j'ai rencontré alors que j'étais psychoéducatrice au CIUS. Donc, c'était un patient très patient, trans, que j'ai rencontré. Et à cette époque-là, je n'étais pas encore professeure. Et il y avait encore moins de ressources en région pour les jeunes de la diversité sexuelle et de genre. Et ce jeune-là m'avait été référé en tant que psychoéducatrice et j'avais de la difficulté à trouver des ressources à l'époque en Estrie. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et ça m'a vraiment interpellée. Je voyais vraiment un jeune qui vivait une certaine détresse, des parents qui se posaient plein de questions. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Quand j'ai postulé pour être prof, j'ai décidé de l'ajouter à ma programmation de recherche. Donc, au final, je m'intéresse aux gens à risque de stigmatisation. Je m'intéresse aux populations minorisées comme les Autochtones. Mais voilà, c'est même que tout a démarré. Et par contre, c'était pas si simple que ça. Tu sais, oui, démarrer une nouvelle programmation de recherche, je demeure dans le sujet de la vulnérabilité sociale, mais encore, tu sais, c'est quand même tout un pan de la littérature. Je devais apprendre énormément de choses. Donc, j'ai embauché une personne auxiliaire de recherche qui était non-binaire. Donc, c'est une personne qui avait fait très peu de recherche dans sa vie, mais qui avait vraiment une expertise expérientielle incroyable. Puis, je me rappelle, c'était hilarant au début parce que elle s'assoyait avec moi puis me disait « OK, Julie, tu m'écoutes? » « Oui, je suis là. » Une personne transféminine, c'est une personne née, assignée. Tu sais, c'était vraiment à la base, là. Tu sais, moi, transféminin, transmasculin, non-binaire, pour moi, c'était vraiment là, un autre univers. Je connaissais ça globalement, mais dans les détails, non, pas tant que ça. Donc, c'est là que j'ai réalisé à quel point ces personnes-là dans mon labo étaient nécessaires, là, si je voulais vraiment faire de la recherche pertinente et utile. Et j'y ai pris goût, là, tu sais, même quand je suis devenue pas pire, là, je trouvais que c'était toujours pertinent pour réfléchir les outils, quelles mesures intégrer dans des questionnaires, comment poser certaines questions au niveau du genre, comment le mesurer. Donc, finalement, c'est ça. Le labo inclusif, ça vise à intégrer des gens d'abord pour leur savoir expérientiel, puis après, on les forme à la recherche. Puis je dirais aussi que ces gens-là me forment aussi à la recherche parce que j'apprends à défaire certaines façons de faire plus traditionnelles en recherche. Donc, mon but, c'est bien sûr la rigueur, la quête d'objectivité, mais j'apprends à faire de la recherche réellement participative aussi, ce qui est quand même, qui demande beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup ça. Donc, le labo inclusif, c'est ça. On embauche des gens d'abord pour leur savoir expérientiel.
Bien, c'est vraiment intéressant. Puis justement, tu as parlé des termes et tout qui peuvent être mélangeants. Donc, juste pour qu'on démarre tous sur les mêmes bases, pourrais-tu commencer par nous définir là, la notion de sexe versus la notion de genre?
Oui, la fameuse question des années 2020, là, j'ai le goût de dire, c'est vraiment dans l'air du temps. Quand on parle de sexe, généralement, là, on parle des caractéristiques sexuelles qui sont dites primaires, là. Donc, on parle, bien, la 23e paire de chromosomes, c'en est une, là, mais on va souvent s'attarder à ce qui est visible, comme les organes génitaux là, externes, mais il y a aussi les organes internes. Et ça, c'est vite devenu une catégorie médico-légale, je dirais, basée sur un modèle qui est très binaire depuis le 18e siècle environ. Là, dans le livre que je vais publier sous peu avec mes collègues, là, le premier chapitre parle de toutes ces bases-là du vocabulaire en passant. Et donc, les gens, quand ils naissent, on les déclare dans une catégorie dite féminine ou masculine. Donc, c'est vraiment des catégories qui sont mutuellement exclusives. Ça a plein d'avantages, cette catégorisation-là, mais ça a aussi des désavantages qu'il faut reconnaître. T'sais, je pense notamment aux personnes intersexuées qui vont naître avec des caractéristiques à la fois féminines puis masculines. Puis, évidemment, les personnes trans et non-binaires vont se retrouver beaucoup moins dans ce modèle-là. Puis, quand on parle du genre, ben c'est vraiment un concept qui peut prendre différents sens selon la posture qu'on prend. Il y a des postures plus féministes, des postures plus queer qu'on pourrait prendre. Mais généralement, on réfère à un construit qui est socio-culturel ou est-ce qu'on réfère à notre sentiment profond d'être homme, femme, un peu des deux, autre. Donc, puis ça concerne aussi notre expression de genre, qu'on veut ou pas faire. Puis, en passant, il y a les travaux d'Alexandre Barry qui résument 4 façons qu'on pourrait définir le genre. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est un prof de l'Université d'Ottawa qui est trans lui-même. Et il nous explique pourquoi c'est important de ne pas chercher à enlever des catégories, de voire même encourager la multiplication des catégories pour justement une meilleure inclusion. Donc, oui, il y a homme-femme, il y a autre, mais au-delà du autre, il y a plein de catégories possibles également.
Je vais aller vers un peu tes sujets de recherche, dont le stress minoritaire, qui est en fait le type de stress que les personnes de la LGBTQ+ vont avoir tendance à vivre, dans le fond, parce qu'on a vu qu'ils vivaient plus de stress que les gens de la population générale. C'est quoi les particularités du stress minoritaire?
Bien, le stress minoritaire, tu sais, minoritaire, le mot le dit, c'est vraiment des groupes qui sont minorisés pour différentes raisons. Puis on a tendance à voir la minorité des gens seulement sur le plan numérique. Mais tu sais, si on prend l'exemple des femmes, on est statistiquement un petit peu plus nombreux. Je pense qu'on est comme 51% sur la planète Terre. Mais on peut quand même être considéré comme un groupe minoritaire à d'autres égards, tu sais, au niveau de différents droits. Donc, il ne faut pas juste regarder le volet numérique, mais il reste que ça prend une part vraiment importante. Parce que, évidemment, les personnes trans, non-binaires, gays, lesbiennes, on est en nombre minoritaire. T'sais. Donc, ça fait en sorte que souvent, on a accès plus difficilement à des ressources. Mais surtout, c'est le fait que nos expériences sont parfois discréditées parce qu'on est moins nombreux. Et on est moins souvent entendus. Il y a comme un rapport de force de façon consciente ou pas, tu sais, qui peut s'installer. Mais à la base, le stress minoritaire, là, c'est Virginia Brooks qui a jeté les bases dans les années 80. Elle, c'était vraiment un premier pas super important. Elle a vraiment aidé à dépathologiser le fait d'être non-hétéro, à s'intéresser aux populations lesbiennes. Puis après, il y a Ilan Meyer dans les années 90 qui, lui, s'est intéressé. C'est la première fois qu'il nommait le stress des minorités sexuelles. Il s'intéressait aux populations gays, puis après, populations bisexuel également. Et il s'intéressait au statut, aux distinctions de statut social puis à ce que ça pouvait amener comme stresseur. Puis Meyer, il a approfondi dans les années 2000 sa conceptualisation du stress. Je vais vous parler bientôt des stress plus externes, internes. Il a commencé à parler des facteurs de résilience. Et en 2012, il y a Hendrix et Testa qui ont proposé une adaptation du modèle pour les populations trans et non-binaires. Mais grosso modo, là, le stress nourrit tel qu'il est conçu, conceptualisé, pardon, actuellement, il y a les stresseurs plus externes, comme le fait de vivre, de subir de la victimisation en lien avec son identité de genre. On pense notamment à Nex aux États-Unis qui s'est fait tabasser dans l'école, dans la salle de toilette de son école. Donc, quand tu es victimisé en lien avec ton orientation sexuelle ou ton identité de genre, c'est un exemple de facteur externe. Il y a des facteurs internes qui est comme, par exemple, la transphobie internalisée, l'homophobie internalisée. C'est le fait de vraiment développer des sentiments négatifs par rapport à ton identité. Puis des fois, c'est avant même que tu te questionnes. Tu peux, depuis ta petite enfance, avoir développé, par exemple, l'homophobie internalisée. Tes oncles, tantes, ta mère fait des blagues, par exemple, sur les personnes gays. Et à ton insu, tu développes la croyance qu'il ne faut pas que tu fasses partie de ce groupe-là. Et finalement, il y a les facteurs de résilience qui peuvent venir diminuer l'impact que ces stresseurs peuvent avoir sur la santé mentale et physique.
Je t'amène un petit peu ailleurs, mais quand même en lien, là. Dans le fond, tes travaux sur les démarches de transition chez les personnes trans et non-binaires, ils vont soulever que leur statut de transition semble être la variable la plus associée à leur fonctionnement psychosocial. Fait que si je fais comme un petit résumé, les personnes qui considéraient que leur transition était complétée puis celles qui prévoyaient pas faire de transition au moment de l'enquête rapportaient des niveaux de satisfaction de vie qui étaient généralement plus élevés que les personnes avant ou pendant leur transition. Donc, est-ce que le fait de pouvoir vivre une transition est directement lié à l'amélioration du bien-être?
Je vais quand même nuancer un petit peu les choses parce que cette enquête-là, elle a un devis transversal. Ça veut dire qu'il y a un seul temps de mesure, puis c'est important humblement de le rappeler. Puis par le fait même, il y a trop peu d'études avec des devis longitudinaux qui étudient le stress minoritaire. Donc, le fait de dire qu'il y a des liens causaux entre le statut de transition puis le bien-être, c'est pas toujours facile à faire. Mais une chose est sûre, il y a des associations. Il y en a plein, là. C'est très documenté, puis on se doute bien là, qu'il y a un lien causal. Et dans certaines études, c'est démontré. Mais oui, par exemple, on a publié dans la Revue canadienne de psychiatrie, on a comparé les gens qui avaient fait au moins une démarche sur le plan légal avec les gens qui n'en avaient pas fait, malgré leur désir. Et les gens qui avaient fait une démarche étaient beaucoup plus satisfaits de leur vie, beaucoup moins en détresse psychologique. Puis ce qui était intéressant, c'est quand on a comparé les gens qui considéraient leur démarche de transition complétée, genre, ben moi, je pense que j'ai fait le tour, je me sens bien comme ça, versus moi, il me resterait ça à faire. Donc, on a comparé ces deux groupes de personnes-là et les gens qui considéraient leur transition complétée étaient beaucoup plus satisfaits de leur vie, beaucoup moins en détresse. Mais ces gens-là rapportaient beaucoup plus de discrimination liée au genre. Et notre hypothèse par rapport à ça, c'est que ces gens-là devenaient plus visibles parce que, tu sais, quand on parle de passing, c'est le fait de pas avoir l'air trans, par exemple. Mais c'est pas toutes les personnes trans, en passant, qui veulent avoir un bon passing, là. Mais c'est sûr que le passing peut être lié beaucoup aux expériences de discrimination liées au genre. Donc, malheureusement, le fait de faire des démarches vient visibiliser la transitude d'une personne. Donc, ce bien-être-là, il est souvent plus nuancé qu'on le pense. Donc, oui, il y a plein de gens qui disent, ben moi, ça l'a sauvé ma vie, tu sais. Puis on les croit, il y a tellement d'études qui le documentent. Mais en même temps, elles peuvent rapporter plus de discrimination. Donc, c'est important d'être présent pour ces personnes-là dès les questionnements parce que dans d'autres analyses qu'on a faites, on a vu que les personnes qui se questionnent étaient quand même vulnérables, voire même aux idées suicidaires. C'est quand même des analyses préliminaires, là. Et les gens, après la transition, donc oui, ces gens-là vont super mieux dans différentes sphères de vie, c'est ce qu'on suppose, mais par contre, elles peuvent rencontrer plein d'obstacles dans différents environnement de vie. Donc, il faut vraiment être présent tout au long aux besoins. Là.
Bien, justement, tu parles de l'accompagnement qu'on doit faire là, auprès des jeunes, bien, des personnes trans et non-binaires. Puis, les résultats de tes recherches et ceux de plusieurs autres études vont soulever l'importance de les accompagner selon des approches qui sont transaffirmatives et avec un consentement éclairé. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de c'est quoi les démarches de transition, puis plus spécifiquement là, la démarche transaffirmative.
Oui. Merci d'en parler. Dans le documentaire Trans Express, on définit de façon réductrice l'approche transaffirmative, mais pas juste réductrice. C'est faux de dire que l'approche transaffirmative, le but premier, c'est de donner le plus rapidement possible accès aux jeunes à des démarches de transition. C'est faux. L'approche transaffirmative, vraiment, la prémisse de base, là, c'est que la personne trans est la mieux placée pour explorer son genre, pour s'auto-déterminer en lien avec son identité de genre, peu importe son âge. Donc, c'est une approche qui est globale, qui est systémique. Et la transition médicale, ce que je veux mentionner, c'est ce n'est qu'un des aspects possibles de transition. Et le recours aux transitions médicales va dépendre du souhait des jeunes, mais aussi de leur capacité à consentir, de leur réalité au niveau somatique, de leur âge, puis de leur réalité sociale. Et c'est à l'opposé des approches normalisantes qui visent à retarder ou à diminuer l'expression d'un genre jugé non conforme. Et il y a comme un spectre, là. Tu sais, au bout du spectre, en termes de coercition, on pourrait parler des thérapies réparatrices, là, des thérapies de conversion qui sont désormais interdites au Canada. Il y avait aussi les thérapies de rééducation du genre. C'était des techniques thérapeutiques punitives, là, psychologiques, voire même physiques, pour aider le jeune à s'exprimer selon le bon genre, entre guillemets. Il y a aussi à cheval l'attente vigilante, qui, je me permets d'en parler, là, qui est quand même controversée, parce que la première prémisse est intéressante. On préconise le fait d'attendre de voir comment le jeune va conceptualiser son identité de genre, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est une approche qui proscrit la transition avant la puberté. Puis ça peut causer différents enjeux. Donc, c'est pour ça que l'approche transaffirmative, avec une approche de consentement éclairée, est vraiment ce qu'il y a de plus judicieux actuellement. Puis c'est ce qui est le plus appuyé par la science aussi. Donc, le consentement éclairé, rapidement, c'est de fournir à la personne toutes les informations dont elle a besoin sans a priori, là, de façon la plus neutre possible.
Puis, ben justement, tu l'as comme soulevé, là, que la recherche, elle va vraiment appuyer les approches qui sont transaffirmatives. Mais même à ça, les droits des personnes trans et non-binaires, là, semblent être matière à débat. Je pense entre autres aux changements qui ont été apportés en juin dernier par le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick qui oblige les élèves de moins de 16 ans s'identifiant comme transgenre ou non-binaire à obtenir le consentement de leurs parents pour que le personnel de l'école utilise le prénom ou les pronoms de leur choix. Je me demandais un peu, c'est quoi les impacts qu'une telle politique sur la vie d'une jeune personne trans et non-binaire peut avoir, là?
Les impacts sont multiples. Quand j'ai été demandée pour la première fois en entrevue à Radio-Canada pour parler de ça, j'étais un peu mitigée, parce que je me disais, mon Dieu, je m'attendrais davantage à ce qu'on me demande de m'exprimer sur pourquoi un jeune à 15 ans pourrait avoir accès à certaines démarches, mettons, médicales. Je comprends que les gens auraient besoin d'être assurés là-dessus. Puis, en effet, c'est bien d'éduquer puis de nuancer les choses. Mais de là à discuter sur la capacité d'un jeune à choisir lui-même son pronom puis son prénom à l'école, j'étais estomaquée. Pour vrai, là, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Pour moi, ce qui se passe, c'est dommageable à différents égards. Il y a tellement de travail qui a été fait dans les écoles. Je pense à la commission scolaire, le Centre de services scolaires de Montréal, maintenant qu'on devrait dire, qui a tellement été pionnier là-dedans, puis d'autres centres pour faire avancer le droit des jeunes, de la diversité des genres. Dans ces réformes scolaires-là qu'on observe actuellement au Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, puis il y a d'autres provinces, hein, qui sont en discussion. On est très axé sur le droit parental et on parle très peu du droit des enfants, du droit à être dans un milieu sécuritaire. Donc, c'est sûr qu'un enfant trans qui provient d'une famille globalement aimante va, généralement, ça va peut-être être un peu malaisant, mais va sentir en sécurité de dire à ses parents, bien, j'aimerais changer de prénom à l'école. Mais un jeune qui évolue dans un milieu malsain ou est-ce qu'il ne se sent pas soutenu, t'sais, l'école, c'est son seul espace là, où il peut aller explorer puis être qui il veut. Donc, c'est sûr, ça place les jeunes dans des risques d'isolement vraiment importants. Ces enfants ne peuvent plus parler aux adultes de confiance de leur école sans craindre que leurs parents soient informés. Il y en a plusieurs qui vont se taire, puis au détriment de leur santé. Puis c'est documenté, l'accès à des environnements où on peut être nous-mêmes, surtout les jeunes, c'est vraiment lié à des bons indicateurs de santé mentale. Et l'école, c'est ultra documenté comment c'est un milieu protecteur par rapport aux jeunes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, moi, là-dedans, je vois une certaine violence épistémique. Où est-ce qu'on dit que les parents des jeunes trans sont les mieux placés pour pouvoir parler de leur identité de genre, ou puis les adultes en général. Puis je pense aussi aux parents de ces jeunes-là qui, il y a quelques années passées, il y avait beaucoup d'espoir avec tout ce qui se faisait dans les écoles. Où est-ce qu'on pouvait avoir l'esprit un peu tranquille que son jeune s'en va à l'école pour apprendre et réussir et s'actualiser? Puis maintenant, avec ce climat-là, bien, moi, être parent d'un enfant trans, je serais plus inquiète, clairement. Puis l'État devrait jouer un rôle de protection de l'enfance par rapport à travers son système de santé, des services sociaux puis de ses écoles. Puis en passant, il y a un recours judiciaire contre la directive du ministère de l'Éducation de la Saskatchewan qui est en cours présentement pour démontrer qu'il y a un motif de discrimination parce que c'est déjà courant pour un enfant de demander qu'un prénom différent soit utilisé, comme par exemple Will au lieu de William ou Marie au lieu de Marie-André, où on pense à un jeune immigrant qui est tanné que son prénom soit massacré puis finalement a choisi un diminutif à son école. Donc, comme il n'est pas question d'avertir les parents de tout changement de nom d'usage, mais seulement quand on soupçonne qu'il y a de la transitude en jeu, bien, ça serait possible de démontrer qu'il y a de la discrimination liée au genre dans une telle mesure. Puis rappelons que l'identité de genre est un motif de discrimination protégé par la Charte des droits et libertés canadiennes depuis 2017. Donc, c'est à suivre, mais c'est pas sans heurte, c'est pas sans risque qui se passe. Puis souvent, ce que je dis quand on me demande en entrevue, c'est comme un peu un appel au calme là, qu'on aimerait faire, notre équipe, on est différents chercheurs. Il y a des gens qui nous écoutent là, dans les médias. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent, puis que vous n'êtes même pas au courant, qui se questionnent sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre. Donc, des débats polarisants avec des informations partielles, de la désinformation, du sensationnalisme, ça a des effets. C'est sûr et certain. Il y a même des études qui ont été publiées aux États-Unis pour montrer les liens directs sur la santé mentale que ça peut avoir. Le traitement médiatique. Voilà, je m'arrête là. Tu vois, je m'enflamme, là, mais...
Ouais. Bien, je vais nous ramener un petit peu au Québec. Là, tu l'as abordé très brièvement tantôt, mais il y a un reportage qui a été diffusé par Enquête qui s'appelle Trans Express, qui remet en doute là, les bénéfices de l'approche transaffirmative. L'épisode, elle va surtout mettre en lumière, je dirais, des expériences de détransition. Donc, c'est plusieurs personnes qui étaient assises devant leur télé ce soir-là puis qui se sentent maintenant informées là, sur le sujet grâce à ce reportage-là. Alors que ce que je comprends de ce que tu nous dis depuis tantôt, ils ont comme plus été désinformés. Donc, les expériences de détransition et de discontinuation, ils sont pas à nier. Là. C'est pas ça qu'on veut faire, mais est-ce qu'il y a quelques nuances qu'on pourrait apporter?
Oui. Bien, c'est sûr que le cadrage du reportage... Tu sais, ça ne reconnaît pas que la détransition, c'est un phénomène qui est plutôt marginal, de un. Si c'est un sujet sur lequel les personnes voulaient se centrer, il aurait fallu l'annoncer d'emblée. Bien, nous, on s'intéresse à la détransition. Ça concerne environ 1 % de la population trans. Et on va faire un reportage là-dessus. Fine, c'est correct. Puis le vécu des jeunes qui sont détrans, détransitionneurs, détransitionneuses, bon, ils s'appellent parfois ces gens-là s'auto-identifient comme détrans. Il est tout à fait valide. C'est important qu'on en parle. Donc, l'enjeu que je vois avec ce reportage-là, c'est qu'on met en doute les compétences professionnelles des personnes qui donnent accès aux différentes formes de transition. Et aussi, on met l'accent sur le regret des jeunes détrans et sur la découverte post-transition de la vraie source du mal-être. Mais j'ai plein de résultats que je peux vous partager d'études récentes qui vont venir nuancer ça. Et indirectement, je trouve que ce reportage-là vient soutenir des approches normalisantes dont on a parlé au début du podcast. Ou est-ce qu'on pense que le fait de retarder puis réduire l'accès aux soins d'affirmation de genre pour les jeunes trans et non-binaires, c'est la façon, la meilleure façon de faire. Donc, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une forte augmentation du nombre de demandes d'accès aux soins médicaux d'affirmation de genre au Canada comme en Europe. Donc, forcément, les jeunes qui détransitionnent ont aussi gagné en visibilité dans l'espace médiatique. Mais la détransition, comment on le définit, c'est vraiment un processus qui vise à mettre fin à une transition de genre pour revenir à un état de pré-transition. Puis, comme je le disais, c'est environ 1 % de la population, 1 à 2 % selon certaines études. Donc, il y a des détransitions sociales, parce que c'est plus de la moitié des jeunes trans et non-binaires au Canada qui n'avaient pas amorcé de transition médicale. Là. Donc, ça ne concerne pas tous les jeunes trans des transitions médicales. Donc, oui, il peut y avoir des détransitions au plan social, au plan médical, mais c'est un terme qui est parfois critiqué parce que ça néglige le fait que l'identité de genre peut évoluer puis continuer de se définir. Même après une détransition, il y a des jeunes qui détransitionnent et qui retransitionnent par après. Donc, souvent, on préfère le terme discontinuation. Ça met l'accent sur l'arrêt de la transition plutôt que sur le retour en arrière. Bon, pour revenir à TransExpress, ce qui me déplaît là-dedans, c'est que ça invalide le vécu de la majorité des jeunes qui sont sur d'interminables listes d'attente. Donc, on a pris l'exemple d'un jeune qui va au privé puis qui fait une consultation. Puis oui, il y a des éléments questionnables dans cette consultation-là. Là, je vais pas le cacher. Mais en moyenne, c'est 269 jours entre le moment d'une recommandation et le premier rendez-vous à une clinique d'affirmation de genre. Donc, c'est pas vrai que c'est un processus express. C'est ça. Faut pas invalider le vécu de ces jeunes-là. Et si tu me le permets, je parlerai des facteurs qui mènent à la discontinuation. Pour
oui,
un peu, merci beaucoup. C'est encore peu étudié, bien sûr, mais il y a différentes pistes qui parlent des facteurs qui mènent vers la discontinuation. À 70 % dans une étude d'une personne chercheuse que je ne vais pas prononcer, je suis désolée. OK, je vais m'essayer, Vandenbosch, en 2022. 70 % des gens décidaient de discontinuer parce qu'ils constataient que la dysphorie de genre était liée à un autre problème, par exemple un trauma, ou encore l'homophobie intériorisée. Puis là, finalement, arriver un peu à départager les choses. Des problèmes de santé aussi, ou sinon une dysphorie de genre qui demeure, mais qui n'est pas atténuée par une transition, par exemple, médicale, ou encore un mécontentement par rapport aux changements sociaux. La personne a détransitionné, elle-même, elle se sent à l'aise avec ça, mais ça crée différentes conséquences dans sa famille, dans son école. Puis finalement, la personne a dit, écoute, moi, je suis mieux sans, finalement. Et il y a aussi une autre étude qui démontre que 82,5% des personnes participantes mentionnaient au moins un facteur externe, comme la pression d'un parent ou la stigmatisation sociale pour détransitionner. Et 15% au moins un facteur interne, comme des doutes sur le genre. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus nuancé, puis c'est pas vrai que c'est juste le regret qui est là-dedans. Donc, moi, si à la suite de ce podcast-là, la personne peut avoir un point de vue plus nuancé des discontinuations, je vous dis merci. Je vais citer un intervenant d'une ligne d'écoute qui a été interviewé qui disait, bien, un jeune qui amorce une transition médicale, sociale, mais qui prend conscience que finalement, c'est plus simple de s'identifier à son genre d'origine, ça ne veut pas dire que la personne ne perçoit pas son genre comme plus complexe que ses genres, mais qu'elle ne voit plus la transition comme une solution. Je vous laisse sur ce verbatim-là.
Bien, il y a quand même plusieurs aspects, là, comme tu le dis dans l'émission, qui ont été abordés, qui semblent peu ou pas du tout là, scientifiquement valable. Par exemple, il y a la théorie de dysphorie de genre à apparition rapide, un concept qui décrit une supposée épidémie de personnes adolescentes qui, dans le fond, qui font leur coming out de trans du jour au lendemain sous l'effet d'une soi-disant là, contagion sociale qui est facilitée par les médias sociaux et des troubles de santé mentale. L'émission présente ce concept-là de matière à débat, là, comme si c'était on pouvait débattre de ça, même si c'est tout à fait discrédité là, par la communauté scientifique. C'est quoi les facteurs de risque que de telles idées là, soient reprises par des grands médias?
C'est surtout le fait de discréditer le vécu de jeunes trans. C'est un concept qui est pseudo-scientifique, là, qui est proposé par Littman. Faut quand même mentionner la méthodologie douteuse. Là, il y a eu des enjeux de certificat éthique. Ça a été retiré d'une revue, par exemple. Au niveau de la méthodologie, les parents, premièrement, c'est des points de vue de parents, d'enfants trans, puis ces parents-là ont été recrutés via des groupes anti-trans sur Internet. Donc, il y a un biais là, de départ assez important. Et ça a été sévèrement critiqué dans la littérature par plusieurs chercheurs, chercheuses, et aussi la World Professional Association of Transgender Health, la WPAT, la WPAT, vraiment émet, répète là, à différents moments que c'est une hypothèse et non un diagnostic. C'est pas un constat, c'est une hypothèse qu'il faut qu'il soit traité avec prudence. Donc oui, c'est problématique. Et évidemment, la période de l'adolescence, les jeunes, on explore, puis oui, il peut avoir des phénomènes où est-ce qu'on est influencé par ce qu'on observe, mais une jeune personne qui démarre des démarches médicales de transition, là, à un moment donné, de dire que tout ça appartient à la contagion sociale, je trouve que c'est très réducteur pour traverser tous les délais d'attente puis tous les obstacles au niveau psychosocial que ça implique un coming out trans. Moi, j'invite les gens à être vraiment prudents par rapport à ça.
Je te ramène un peu à les études que tu mènes présentement. Donc, le Labo Inclusif mène une étude là, sur les mécanismes de résilience chez des jeunes qui sont trans et non-binaires au Québec, qui entourent le contexte socio-politique actuel. Peux-tu nous parler un petit peu là, des données préliminaires que vous avez pour l'instant?
Oui, c'est vraiment trippant en ce moment. Là, on est dans un blitz, si je peux me permettre l'expression, d'analyse. Donc oui, c'est des données préliminaires. Donc on s'intéresse aux facteurs de résilience, surtout dans le modèle de Hendrix et Testa. On propose deux facteurs centraux de résilience qui est le sentiment d'appartenance communautaire et la fierté. Donc le sentiment d'appartenance communautaire, c'est le fait de sentir qu'on appartient à un groupe qu'on réseaute avec des gens qui sont comme nous, donc les associations LGBTQ+, par exemple. Et la fierté, c'est le fait de développer une fierté d'être nous-mêmes avec et au-delà de notre identité de genre et de notre orientation sexuelle. Et on est en train de regarder à quel point ces facteurs-là ont des liens avec certains indicateurs de bien-être comme l'anxiété et la dépression. Et on a observé à notre plus grand étonnement qu'il y a d'autres facteurs que ceux proposés par Testa, du moins chez les jeunes, qui ont de l'impact par rapport à l'anxiété et à la dépression. On pense notamment à leur niveau de satisfaction par rapport à leur relation familiale, à leur relation d'amitié et aussi à leur apparence. Puis selon toi, Lauriane, pour faire ça un peu interactif, lequel aurait un plus grand impact? Être satisfait par rapport à son apparence, aux relations familiales ou aux relations d'amitié en lien avec les symptômes anxieux et dépressifs?
C'est une bonne question, pour vrai. Est-ce qu'on parle plus des adolescents, mettons?
Oui, les jeunes. Mettons 14-19 ans.
Je dirais les relations avec les amis, peut-être.
C'est exactement notre hypothèse de départ et c'est pas la réponse.
Ah non?
Oui, notre hypothèse de départ, on se disait, bon, ben amis, famille, puis apparence en ordre de force. Et finalement, c'est l'apparence en premier, suivi par la famille, suivi par les amis.
Ah ouais.
C'est vraiment intéressant. Donc, non seulement on voit que la solidarité communautaire puis la fierté auprès de ces jeunes-là, dans ce modèle d'analyse-là, ça ne ressortait pas significatif, mais l'apparence, donc le fait d'être satisfait de son apparence, c'était vraiment les jeunes qui étaient les moins, tu sais, leur niveau de dépression et d'anxiété était les moins sévères. Intéressant, quand même. Donc, ça vient vraiment donner du sens aux recommandations de plein d'autres chercheurs qui est de faciliter l'accès à des démarches de transition. Puis les démarches de transition, c'est pas juste médical, je le répète. Donc, au niveau social, il y a plein de choses qu'on peut faire, dont un prénom et un pronom qui nous convient à l'école. Donc, ça, c'est important. Il y a différents articles d'affirmation du genre. Il y a l'orthophonie pour l'entraînement de la voix qui peut se faire. Il y a des démarches légales. Je donne l'exemple à l'Université de Sherbrooke. Là, les personnes sont capables de changer leur genre, leur nom. La directive là, pour le changement de prénom et de pronom à l'Université de Sherbrooke, chapeau. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont utiles. Et oui, il y a plein de démarches médicales qui peuvent être faites. Puis en passant, là, au niveau médical, je vais juste revenir, on va prendre une petite pause. Donc, c'est ça. Au niveau médical, au fur et à mesure que la personne développe une capacité à prendre des décisions éclairées, il y a, de façon progressive, il y a des traitements qui vont être proposés. Ça va aller des bloqueurs de puberté qui sont réversibles, aux traitements hormonaux qui sont semi-réversibles, aux options chirurgicales qui sont irréversibles, puis généralement proposées uniquement à partir de 16 ans pour les chirurgies du torse, puis 18 ans pour les chirurgies génitales au Québec. Donc, c'est pas vrai qu'on opère les enfants de 13 ans. Ceci est faux.
Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir lire les résultats là, de cette étude-là. Puis, selon toi, là, c'est quoi l'avenir là, pour les droits des jeunes personnes trans et non-binaires? Est-ce qu'on peut garder espoir là, dans le Québec de demain?
Oui, gardons espoir. Parce que oui, il se passe des choses qui sont questionnables en ce moment dans les médias. Mais il faut se rappeler qu'il y a des politiques ministérielles transaffirmatives pour le bien-être des jeunes trans et non-binaires québécois actuellement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recul là-dessus. Je vais les nommer. Donc, les lignes directrices sur la santé et le bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre par le ministère de la Santé et des services sociaux et le réseau de la santé et des services sociaux. Ça, c'est un très bon point de départ concernant les besoins en matière de santé et de bien-être de ces jeunes-là. Ça énonce, par exemple, l'importance de fournir des endroits inclusifs et sécuritaires de toutes sortes, les salles de toilettes, les vestiaires, de soutenir l'utilisation du langage inclusif, de favoriser l'autodétermination des personnes concernées par rapport à leurs besoins, ce qui est très transaffirmatif quand même. Et on y indique aussi dans ce rapport-là la nécessité que les établissements du réseau nomment une personne répondante en santé et bien-être LGBTQ+, par région. Je vous dis ça comme ça. Et il y a aussi le guide à l'intention des milieux scolaires pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre en 2021 qui réitère que le seul indicateur fiable de l'identité de genre, l'identité de genre demeure l'auto-identification des jeunes et qui donne des éléments pour favoriser l'inclusion et la réussite. Donc ça, c'est des politiques qui existent puis sur lesquelles on peut bâtir malgré tout l'incertitude là, qu'on peut voir dans les médias.
Pour terminer, tu l'as mentionné très rapidement tantôt, mais je pense que tu vas bientôt publier un livre.
Oui, mon Dieu, après plus de 3 ans de travail, entrecoupé par la maternité et tout, avec mes collègues à la co-direction Annie Poulin-Sans-Façon et Nicolas Courcy. C'est un ouvrage collectif qui va paraître cet automne dans la collection Psychoéducation des presses de l'Université du Québec et qui s'intitule « Pratique psychoéducative auprès des jeunes trans et non-binaires, enjeux contemporains et approches innovantes ». Puis ce que je suis fière par rapport à cet ouvrage-là, c'est qu'on a été capable, dans la plupart des chapitres, de mettre des gens avec vécu expérientiel, des gens aussi avec pratique en psychoéducation, parce que pour moi, évidemment, c'est important. Je suis psychoéducatrice, je voulais qu'il y en ait dans plusieurs chapitres. Donc, on a vraiment hâte que ça sorte. Puis on trouve qu'avec le climat actuel, il est temps que ça sorte. Ça va être un bon moment.
En effet. Bien, merci beaucoup, Julie-Christine, d'être venue parler de ce beau sujet-là avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Julie-Christine Coton, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du GRIS dans la description de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du GRIS, rendez-vous sur notre site web au www.grise.ca. À l'animation, Lauriane Hébert. À la recherche et à la production, Sonia Anvar, et à l'enregistrement, le studio Balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.